Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Si on parle tout de suite d'un domaine dans lequel il n'y a pas de sagesse, ou peut-être oui, on va le dire, Christian Bito, c'est les marchés. CAC 40, on est au-dessus de 8%, le S&P 500, 10%, le Nasdaq, 10%, le Nikkei, 22%, même Shanghai est en hausse de plus de 3%. Avant de parler des marchés, juste une question sur pour vous, Patrice. On a eu un événement que j'ai trouvé un peu symbolique. C'est le Japon, qui était le dernier pays à avoir des taux négatifs, qui est sorti des taux négatifs, alors pas de façon spectaculaire. Quel bilan on tire de cette période des taux négatifs ?
Alors, l'idée des taux négatifs était très simple, hein, effectivement, c'était d'éviter d'avoir, en situation économique difficile, d'avoir de l'épargne qui reste stockée et inutilisée dans des comptes courants. Et donc, en fait, on pénalise en fait ceux qui détiennent cette épargne-là. Donc, on l'a bien vu. Alors là, bien entendu, les taux négatifs ont été assortis, notamment pour le Japon, avec un contrôle sur la courbe des taux, avec des achats directs et d'actions et d'obligations. Et grosso modo, dans les autres pays où ce système a été appliqué, on avait bien entendu des soutiens budgétaires. Donc l'idée était bonne, était simple. La mise en œuvre a été très compliquée, avec des distorsions de concurrence, avec des problèmes quand une caisse de pension, donc ceux qui gèrent votre retraite, a des actifs en dépôt, et bien les pénaliser sur ce dépôt. Là, c'est un peu contredit la volonté économique ou l'idée économique qui avait à la base. Et puis je pense que maintenant on rentre dans une ère où effectivement d'abord on a une inflation, donc on va pas revenir à des taux d'intérêt négatifs puisque on travaille maintenant sur les deux prochaines années avec des taux d'intérêt réels positifs. Et de toute façon, je pense que c'est techniquement, ça a été testé. Les actions, me semble-t-il, d'intervention directe sur les marchés obligataires ou, comme le fait la BCE avec ses TLTRO, donc d'injection directe de liquidités, et c'est ce que fait un petit peu la Chine aussi, pour essayer de sortir de la crise immobilière, sont des techniques qui marchent peut-être même mieux et qui sont plus simples à mettre en œuvre que les taux négatifs.
Est-ce qu'on peut dire quand même qu'en dehors du Japon, le fait d'avoir maintenu des taux négatifs trop longtemps, notamment en Europe, mais aussi dans d'autres pays, a provoqué quand même une partie de l'inflation ?
On n'a pas réagi, effectivement, avec l'histoire, on n'a pas réagi suffisamment vite, puisqu'en fait, il y avait deux étages. Il y avait l'étage matières premières commodities, qui était là un choc mécanique, et puis il y a le deuxième étage, c'est-à-dire la relance de la demande domestique, ce qu'on a vu aux États-Unis avec les effets Trump, distribution des salaires et de pouvoir d'achat énorme, et ce qu'on a vu, effectivement, dans la fin des mesures que vous avez évoquées en début d'émission.
Emmanuel,
vous n'êtes quand même pas en train d'insinuer que c'est parce que les taux d'intérêt sont restés trop bas trop longtemps qu'il y a eu de l'inflation ?
Si.
Mais vous n'avez jamais arrêté de dire, Marc, que l'inflation n'était absolument pas liée à la politique monétaire.
Si, j'ai toujours dit deux choses. Pardon, je me suis peut-être mal exprimé. J'ai toujours dit qu'il y avait deux étages dans l'inflation. Il y avait eu l'étage où, après le Covid, on a eu le rattrapage post-Covid, toute cette excitation. Et là, on avait déjà le premier étage de l'inflation. Il aurait fallu le briser en arrêtant les taux négatifs, déjà, parce que ça rajoutait de l'huile sur le feu. Et puis ensuite, il y a eu l'inflation par l'offre par l'Ukraine. Donc j'ai toujours pensé que la BCE, c'est pour ça que je critique la BCE, que la BCE aurait dû relever ses taux plus tôt, moins haut, et les baisser plus rapidement. Bulle ou boule ?
Ah, question fondamentale.
Oui, c'est pour ça que je vous la pose.
Boule, c'est BU2L.
C'est pas BU2L, c'est pas boule.
Parce que pour nos auditeurs, c'est
pas boule. Ouais, c'est vrai. Alors boule, parce que quand on dit boule, c'est un marché haussier.
C'est le grand problème du moment.
C'est le taureau de Wall Street.
Allez, je vous vole 60 secondes pour que vous compreniez bien ce qui se passe, parce que pour moi, ça n'est pas une bulle. C'est la fin du dégonflement de la bulle. C'est même tout à fait l'inverse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suppose que dans mon économie, je n'ai, que ce soit les États-Unis ou dans mon pays, je n'ai qu'une paire de lunettes produites. Mes célèbres lunettes roses. D'ailleurs, elles sont possibles. Quelqu'un peut organiser une petite collecte pour la prochaine émission. Ce sera avec grand plaisir. Et que le banquier central, toujours le banquier central en question, imprime un billet de 10 euros. Par définition, ma lunette
vaut
10 euros.
Vous n'avez pas le brûlé comme Gainsbourg.
Ensuite arrive, surtout pas. Surtout pas sur le plateau de C'est votre argent. Ensuite arrive le Covid. On sait que le Covid, le quoi qu'il en coûte, il a fallu le financer et les banques centrales l'ont financé en achetant de la dette. Donc les banques centrales ont imprimé un deuxième billet. Voilà. Par définition, mes lunettes valent maintenant 20 euros s'il n'y a que ça dans l'économie. Et donc nous avons eu en 2021-2022 une inflation qui a explosé à 10% en zone euro.
D'accord.
Depuis. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Et ça s'est arrêté en octobre dernier, je vous l'ai dit lors de notre dernière rencontre. En octobre dernier, l'évolution de la masse monétaire, alors au sens M2 pour les spécialistes, de la masse monétaire américaine, elle décroissait à un rythme de 5% par an. C'est-à-dire que le banquier central, conscient de cette gabegie monétaire, en fait, le quoi qu'il en coûte, va retirer des billets pour qu'on fasse disparaître l'inflation. Dit autrement, le crédit plus dur, les conditions financières plus sévères, ralentissement de l'activité, baisse des prix. Depuis octobre, on y est arrivé. Donc on est à la fin du dégonflement de la bulle, puisque si vous regardez la masse monétaire aux États-Unis,
mais de la bulle obligataire, mais pas de la bulle boursière.
Non, de la bulle, je parle de l'économie d'abord, okay. De l'économie, parce ouais, que le fondamental, la masse monétaire, c'est pour tout. Et quand elle croît, ce qui va se passer cet été, eh ben au passage, les marchés financiers vont commencer leur hausse. J'y viens, vont commencer. Parce que pour le moment, l'évolution de la masse monétaire aux États-Unis, qui est à un rythme de moins 5% par an, c'est la politique restrictive, est passée à moins 2% depuis le mois d'octobre.
Donc là, vous nous dites...
Cet été, on va passer à 0%.
On n'a rien vu,
c'est le début. En septembre, parce que c'est clairement, parce que c'est une ligne droite, en septembre, on va passer en masse monétaire positive, c'est-à-dire pour qu'il y ait plus de crédit. La Federal Reserve va baisser ses taux d'intérêt pour qu'on ait envie d'aller chercher de l'argent à la Banque centrale, et on va regonfler l'économie. Au passage, les marchés.
Juste une question avant de passer la parole à Alain. Les économistes, vous validez ce qui vient d'être dit ? Emmanuel ?
Non, parce que je ne comprends pas très bien comment il n'y aurait pas, avec le scénario d'Alain, une restriction de la liquidité, et on voit bien que le lien entre la hausse des marchés et la liquidité, il est extrêmement fort. Donc comment on peut concilier rationnement de la liquidité avec hausse des marchés? C'est ça que je vois pas très bien, moi, là.
Ce que dit Christian, c'est le chiffre comptable, la masse monétaire américaine au sens M2, ben, elle était comme ça, et elle repart comme ça.
Depuis octobre.
Ça repart.
Patrice, vous validez?
On réinjecte.
Alors, il n'importe quoi ou pas?
Non, pas du tout. Je pense qu'on est un peu de la même école. Donc, ce qui est intéressant, effectivement, dans ce qui vient d'être dit, je rebondis là-dessus, c'est qu'on relance, effectivement, un cycle de crédit qui, lui, s'était interrompu, justement, parce que l'émission des billets de 10 euros s'était arrêtée avec la politique monétaire restrictive.
Le vous lien... pouvez les laisser sur le plateau pour le personnel, lien, merci.
J'ai pas amené de France Suisse, je suis désolé. Le lien avec l'économie et avec les marchés sont les bénéfices. Et la structure économique américaine, elle est formidablement bien orientée sur la poursuite du mouvement de la progression des bénéfices. Et après, vous allez mettre, en fonction de l'évolution de la masse monétaire, le prix, c'est-à-dire le PE du marché. Alors
vous êtes
que
en train de
voulez.
Nous dire les deux qu'on est au début d'un bull market.
Alors, il n'est pas au début, parce que pour moi, il a déjà quand même bien commencé. Mais je veux dire, il n'y a pas de raison que la musique s'arrête.
Alain, vous
alors,
qui êtes
première
musicien.
Première chose sur la bulle, moi effectivement je crois pas qu'il y ait une bulle, parce qu'en fait les bulles c'est en fin d'expansion monétaire, ça c'est très clair. Et puis il y a un autre truc qu'on a tous connu hein, dans le passé, c'est tout le monde sans discernement, c'est-à-dire que les nanars, les belles valeurs, enfin tout est hyper
le everything
cher.
Rally.
Voilà, et tout est hyper cher, les métriques sont hyper chères. On n'a pas ça en ce moment. Alors les points positifs qui à mon avis confortent effectivement un bull market, bon c'est les résultats des entreprises, un endettement assez bas, une bonne gestion des coûts, et alors le point clé c'est liquidité de marché. Il y a 6 trillions dans le monétaire aujourd'hui, dans les supports type monétaire qui vont quand même se redéverser, beaucoup de rachats d'actions qui vont continuer, des dividendes qui restent quand même très élevés, donc ça c'est quand même des points positifs, plus d'OPA en 2024 qu'en 2023, ça aussi ça va quand même être positif pour les marchés, et plutôt des baisses des taux.
Ah, il a bossé
alors,
hein.
Oui, alors après par contre il y a des points négatifs, alors autant tout ça c'est assez long terme, tous les phénomènes positifs que je viens de décrire, parce que les résultats, les entreprises qui continuent à faire des bons investissements, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Alors les points négatifs sont un peu plus à court terme, c'est-à-dire que la première chose c'est que toutes les gestions sont au maximum en action. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus de possibilité d'aller en rajouter. Il y a un petit peu quand même. Ça, c'est quand même un point assez important. Une volatilité basse, ça veut dire que personne n'est protégé. Donc ça, c'est quand même un peu embêtant. C'est le prix, en fait. La volatilité, c'est le prix de l'assurance, en fait. Et ce prix est très bas parce que personne ne pense qu'il peut y avoir d'accident. Donc ça, en général, c'est pas très positif. Les marchés sont disloqués aussi. Ça, c'est un point qui est quand même assez embêtant. C'est-à-dire qu'on a des segments qui se portent très bien et des segments complètement à la rue. C'est-à-dire qu'on a les émergents qui sont quand même pas terribles. Je parle pas de l'Inde, mais la Chine, c'est quand même encore assez lourd. Ce matin, c'était quand même vendredi, c'était encore très mauvais. On a les small mid-cap dans le monde entier qui sont quand même en déshérence, qu'en fait, c'est quand même assez mauvais. On a des marchés qui sont de plus en plus exigeants, c'est-à-dire qu'on voit les résultats. Quand les résultats sont un peu décevants, c'est une sanction très forte. On a même vu Gucci, qui est quand même une belle boîte qui s'est fait quand même bien désinguer cette semaine.
Désinguer, allons-y.
Et qui entraîne un peu tout le monde à la baisse.
Après, non, mais c'est le terme qui me choque, mais c'est pas l'idée, j'ai compris. J'aurais parlé de baisse.
Bon, ça, pour désinguer Bruno Le Maire, on a moins d'état d'âme.
Il y a aussi ah, ma bonne dame.
Il y a aussi un point qui est important, je trouve, c'est la montée des lois antitrust. Non, mais encore deux. Les lois antitrust qui commencent à arriver, et ça pénalise quand même les GAFAM, parce que tout le monde a l'œil dessus, tout le monde voit qu'elles gagnent de l'argent, donc c'est une manière de les chercher du fric assez facilement. Et puis, il y a un élément qui est, et ça, c'est nos amis suisses qui ont commencé, hein. Il y a une petite différenciation entre les banques centrales. Et ça, c'est jamais très bon parce que ça met de la volatilité sur les devises et ça finit par créer des problèmes sur les taux, ça peut créer des problèmes sur les marchés à un moment donné. Donc ça, c'est pas très bon à court terme. Et puis, les États qui...
Les banques centrales.
Et les États qui ont besoin de faire la soudure, qui vont aller chercher là où il y a de l'argent, c'est-à-dire les entreprises, c'est ce qui est pas très bon pour les marchés. Et
donc, je voudrais quand même féliciter Alain qui, pour une fois...
Vous me dites ça à chaque fois.
Ça fait plusieurs années qu'il vient à l'émission. Et c'est la première fois qu'il a bossé. Franchement, il faut le remarquer, parce que quand ça arrive, c'est tellement rare.
Tout à fait d'accord.
Que si on ne célèbre pas ce genre d'événement,
on a quand même eu deux séquences cultes.
Hein. Ah ouais.
C'est-à-dire le cours d'Alain, le cours de Christian avec ses lunettes et ses billets. Ça mérite sur les réseaux sociaux.
Absolument. D'être
un véritable engouement.